marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Je n'ai rien tenté, je n'ai rien réussi. Si, il y a quand même une chose que j'ai faite et que je recommencerai exactement pareil, c'est m'engager à Londres en 1940.
Un entretien avec un Français libre, Daniel Cordier.
Le président de la République qui vient au Mont-Valérien, et tous les deux, on va nous ouvrir la porte, pour nous deux, de l'endroit où on a mis tous les morts fusillés par les Allemands, etc., ouais, etc. Et il y a un trou que je n'ai jamais vu encore.
Un trou. Au titre de chancelier d'honneur de l'Ordre de la Libération, Daniel Cordier a conduit tout à l'heure le président de la République vers le caveau réservé dans la crypte du Mont-Valérien au dernier des compagnons. Ils sont encore cinq. Il se peut fort bien que le sort le désigne pour y prendre place. Auparavant, il avait donc reçu d'Emmanuel Macron à l'Élysée le grand cordon de la Légion d'honneur. De Daniel Cordier, 97 ans, on dit que c'est encore un jeune homme. Le président n'a pas hésité à le présenter comme un enfant. Il l'était encore, en effet, quand il a embarqué pour l'Angleterre, dès le 21 juin 1940. Les héros de la France libre étaient des enfants. Après son parachutage, en juillet 1942, il est devenu secrétaire de Jean Moulin dans la clandestinité, détenteur de tous ses secrets. Exfiltré après l'arrestation de son patron, il entendit bien montrer à son retour à Paris, à la Libération, qu'un héros pouvait rester un enfant. « Je n'ai pas commis d'autre exploit que celui de rester libre », répétait-il. Jean Moulin lui avait promis de l'emmener au Prado, à Madrid, après la guerre. C'est seul que Cordier s'y est retrouvé au printemps 1944. Sa vie bascula de nouveau. Quelques années plus tard, il se consacra entièrement à l'art. Pour être le galeriste et surtout l'immense collectionneur qu'il fut, il fallait avoir un œil toujours neuf, l'enfance, toujours. Le jeune homme s'est fait plusieurs vies. À partir des années 1980, il s'est entièrement consacré à l'histoire. Sa biographie de Jean Moulin, qui occupe plusieurs volumes, part d'une immense collecte d'archives, toutes examinées à nouveau frais. Elle a impressionné les historiens qu'il considère maintenant comme un collègue éminent. Il en tire une grande fierté, même si les vérités auxquelles il est parvenu n'ont pas toutes laissé d'empreintes dans le grand public. Celui-ci est atteint en revanche avec le premier volume de ses mémoires, alias Caracalla. Caracalla, c'est le surnom que son ami Roger Vaillant avait ajouté à ses pseudonymes de guerre. Régis Degray et Pierre Assouline auraient voulu lui décerner le prix Goncourt, mais les autres académiciens répondirent qu'il leur fallait un roman. N'importe, déjà capitaine au long cours de la recherche, voilà Cordier, amiral du style. Avec Stéphane Beaufils, nous l'avons rencontré dans une atmosphère bien différente de celle du Mont-Valérien, à Cannes. L'appartement donne sur la baie, au second plan les yachts. Au premier, le square du 8 mai 45 avec sa croix de Lorraine. Il n'y a pas de hasard. C'était il y a deux semaines, à la même heure, précisément, on enterrait, loin de là, Yves de Daruvar. Daniel Cordier évoqua la gaieté de leurs ablutions dans l'improbable bâtiment industriel, l'Olympia, où à Londres, l'été 40, les Anglais avaient regroupé les premiers volontaires français qui avaient rejoint la petite troupe du général de Gaulle. Un extrait du film tiré d'Alias Caracalla, et Cordier lui-même, enfin.
Et puis, on était des enfants, on avait... Moi, je devais avoir... je n'avais pas 20 ans. Oui, c'est ça, j'avais 19 ans. Il y a eu 19 ans à Londres.
Alors, artillerie. Alors, t'as choisi quoi?
Je voulais l'aviation, ils m'ont donné de l'artillerie.
Ah bon?
Toi, tu veux quoi?
Je sais pas.
Ah, pour moi, c'est l'infanterie. La reine des batailles.
Dans quelle arme voulez-vous servir?
Je choisis l'infanterie.
Pourquoi?
Je veux tuer du Boche.
Votre nom est signé.
Viens, on va faire un tour.
Allez.
Excuse-moi, je suis en train de celui-ci.
Les gars, la douche chaude et des douches.
Il y a même deux salles de bain.
Waouh, c'est un palace.
Et bon, viens, je vais garder une place.
Ouais. Je prends celui-là, ça dérange personne.
C'est bon.
Je suis novice chez Hyper Blanc.
Daniel Cordier.
François Briand.
Enchanté.
Qu'est-ce qu'un prêtre vient faire ici ?
Je suis pas encore prêtre. J'imagine que je suis ici pour la même raison que vous tous. Parce que je suis un homme libre. Que je vais me battre contre les Boches.
Quand est-ce que De Gaulle est venu nous voir ? Nous. Alors, nous avons appris à marcher au pas. Le général De Gaulle va venir vous voir. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme j'étais un des rares qui avait une veste et une cravate, on m'avait mis au premier rang, parce que d'habitude, on mettait les garçons dans l'armée, ben, les plus grands devant, puis les plus petits derrière, moi j'étais toujours au milieu. Mais là, avec ma cravate, j'étais devant. J'étais exactement devant la porte d'entrée. J'étais au garde-à-vous et j'étais comme ça. Et alors tout d'un coup, à 9h pile, la petite porte s'est ouverte et il y avait une lumière. C'était drôle parce que c'était ce carré lumineux. C'était le mois d'août, il faisait un temps superbe à Londres. Et je vois quelqu'un qui arrive là avec son képi. Et qui se plie, mais beaucoup. Pour rentrer avec ton képi par cette petite porte, en fait. Et alors, une fois qu'il est passé, il est venu, il marchait au pas venant vers nous, mais il avait 2 mètres, je sais pas quoi, c'était le général De Gaulle. Et alors, le premier mot que je n'ai jamais oublié, le général De Gaulle, on était tous au garde-à-vous, on était autour de lui, et De Gaulle nous a dit « Je ne vous féliciterai pas d'être venu, vous n'avez fait que votre devoir. »
Voilà un discours de quelques minutes seulement, et le général est reparti, pliant sa silhouette dans la même petite porte de fer. Ni remerciements, ni grandiloquence, il faudra se faire à la bréviloquence du général. L'école du soldat sera rude, elle aussi. Mais la discipline de la France libre ne gênera jamais Daniel Cordier. Elle est consentie par des hommes très jeunes qui attendent de mordre au pain du combat, mais n'abdiquent nullement leur singularité.
La vérité de ma vie, c'est-à-dire que... Oui.
Insoumis.
Non, mais écoutez, j'aime la vie, j'aime faire des choses, enthousiasmer les êtres, mais je suis un anarchiste, je crois.
Ben, vous l'avez prouvé par la suite, parce que vous avez beaucoup tourné les pages à plusieurs épisodes de votre vie, rompu avec les honneurs faciles, au lendemain de la guerre. J'aimerais qu'on parle du lendemain de la guerre. Au lendemain de la guerre, en 1945, quand la guerre est finie, que les camarades avec qui vous avez travaillé comme agent secret en France reviennent, vous vous éloignez d'eux. Vous dites, chacun va avoir sa vie. Laissez-moi libre, je vous laisse libre.
Ça, c'est le regret de ma vie. Et je leur ai dit, écoutez, on a fait la guerre, ça a duré 5 ans, maintenant, c'est fini. Et je vous dis au revoir, on ne se reverra plus. Je ne m'en suis jamais remis. C'est d'une bassesse, enfin, c'est... Je ne comprends pas. Je suis un fou.
Vous dites « j'aime enthousiasmer les êtres », mais alors vous n'aimez pas les conduire longtemps.
Non, je crois que je suis un solitaire. Je suis un solitaire.
Alors Emmanuel Macron tout à l'heure a proposé une explication, le refus constant, précoce, chez Daniel Cordier, de l'esprit ancien combattant, le genre béret et clairon. Donc en 1945, Daniel Cordier avait travaillé aux côtés du colonel Passy, le chef des services secrets. En janvier 1946, la démission du général de Gaulle de la présidence du Conseil provoqua celle du colonel. Et voilà Cordier rendu à la vie ordinaire. Mais il n'y a pas de vie ordinaire. Il y a l'autre vie qui est l'art. Il va donc, à partir de 1950, s'y consacrer tout entier avec des galeries qu'il fermera en 1964 et puis surtout une collection mensualisant des artistes inconfortables qu'il aime en échange de leurs œuvres. Collection farfelue pour le Figaro. Collection en tout cas inépuisable dont il vit encore et qui fera l'objet de donations aux abattoirs de Toulouse et d'abord au Centre Georges Pompidou à Paris. France Culture, 1990.
Tout d'abord, l'exposition Cordier, Daniel Cordier, qui a donné 500 œuvres d'art donc à l'État, qui sont exposées à Georges Pompidou. Cordier, après la guerre, donc s'est retiré complètement de toute activité politique. Il s'est intéressé aux arts. Il a dit d'ailleurs que cet intérêt pour les beaux-arts venait de Jean Moulin lui-même, qui aimait beaucoup dessiner. Et nous avons là le résultat de les collections de Daniel Cordier, avec, il a été quand même le premier à s'intéresser à Dubuffet, à Belmer, à Mata, à Wolfs, ça fait...
Oh non, premier, second, troisième.
Enfin, l'un des premiers.
Il avait collectionné un ensemble tout à fait hétéroclite et qui est parfois totalement décevant, dont il dit qu'il ne l'a jamais vu.
Quand même très intéressant.
Oui, il ne l'a jamais vu lui-même ensemble. Et alors je me demande si dans un sens, Daniel Cordier n'a pas voulu faire une blague au musée. Ouais. C'est-à-dire essayer de remplacer le musée des conservateurs par le musée des donateurs.
Ah oui, non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est une donation qui a comme intérêt aussi d'offrir comme une sorte de cadeau empoisonné à l'institution.
Ah voilà.
Mais en même temps, c'est ça qui est passionnant. Ce qui était, dans une certaine période, disons après la Deuxième Guerre mondiale, irrecevable ou simplement recevable par un petit nombre de gens, tout d'un coup passe dans un espace public. Et ce qui est passionnant, je trouve, aussi dans cette donation, c'est qu'on sent très bien que Cordier n'a jamais pu être vraiment le propriétaire de ses œuvres, mais qu'il n'en a été que le passeur. Je crois que ce qui est beau, quand même, c'est la façon dont il parle de ses deux découvertes initiales, qui sont celles de Michaud, d'abord. Et il faut dire qu'il y a des œuvres de Michaud exceptionnelles, notamment des œuvres de Michaud qui datent de 36-37, qui sont extraordinaires.
Ah, et puis aussi,
il y a des très très beaux, moi je trouve qu'il y a de très beaux Dubuffet, personnellement. Il y a aussi des Chessac magnifiques. Il découvre Michaud et quasiment Devanne au même moment.
Les propos de Pierre Cabanne, c'était dans Panorama, l'émission de Jacques Duchâteau sur France Culture, ont été démentis par la réalité. Alors Michaud, il est encore au mur de l'appartement de Cannes, dans la lumière de la baie. Il y a aussi par terre d'innombrables livres d'art qui sont posés là et que Daniel Cordier enjambre allègrement. Et puis, au mur, sur les étagères des bibliothèques, les œuvres, les objets, généralement d'art primitif, comme on dit, qui n'ont cessé de lui parler et qui ne l'ont jamais déçu.
Je suis très heureux dans la liberté. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais je suis, je ne sais pas si vous le sentez dans ce bordel et tout ça, mais c'était la maison, un endroit où il y a quelqu'un d'heureux. Enfin, ça se voit peut-être pas, mais enfin, c'est vrai. Tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce que je vous ai montré dans ma chambre, ce sont des objets que j'aime. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils sont là, je les regarde. Ça ne m'intéresse pas de vous expliquer d'où ils viennent. D'ailleurs, souvent, je ne le sais pas. Et par exemple, ce Michaud, ou celui qui est dans ma chambre, ils exercent une fascination sur mon être. Vous voyez là, je suis ici, c'est là où je déjeune parce que je vois la télévision. Et j'ai ce Michaud en face de moi. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder. Là, ce grand chose d'ardoise, là, c'est une chose que j'ai ramassée, j'en ai pris, je suis allé dans le village, et devant la pièce, je n'ai pas compris, ce sont des objets que les croyants, c'est très grand, mettaient par terre, comme hommage à à leur croyance. Et j'en ai acheté 13. J'en ai pris un pour moi et j'en ai donné 12 au musée. Et ils ont fait une exposition. Et c'est très...
Oui, mais c'est aussi une affaire d'œil. Alors, vous êtes un insoumis et vous avez l'œil sauvage.
Ah ben, oui, c'est pour ça que je vous trouve très beau.
Oui, c'est ça. Dire la vérité de son désir, c'est le seul moyen d'être en accord avec soi-même. Daniel Cordier n'est pas du genre à dissimuler son homosexualité qui, après la guerre, il le dit et le répète, a déterminé son style de vie. Après la parution d'Alias Caracalla, premier volume de ses mémoires, il a détaché un fragment des textes à venir, Les Feux de Saint-Edme. Il y présente Saint-Edme, un collège électrique. Il y était élève en 1935. Un bagne érotique, dit-il, où les tentations surgissaient de toutes parts. Le souvenir d'un camarade l'a hanté particulièrement, au point d'embaucher un détective, un généalogiste, pour le retrouver.
Hélas, il se souvenait à peine de moi. Enfin, il était marié, évidemment. On a dîné ensemble. Je l'ai invité à dîner à Paris. Je ne le reconnaissais pas, évidemment. Il avait 75 ans. Horrible.
Et de cet amour de collège, vous dites, je m'en voudrais toujours d'avoir refusé le jour de l'accomplissement.
Oui, non, parce que l'accomplissement, je l'avais poursuivi, etc. On avait parlé. J'étais très amoureux. Et finalement, le seul endroit où on arrivait à se rencontrer tout nu, c'était les douches. Il y avait 3 douches, les unes à côté des autres, et il y avait un père qui nous surveillait depuis l'extérieur, il lisait son bréviaire. Mais les 3 douches, c'était des plaques trouées, vous savez. Et on enlevait les plaques. Et l'autre aussi, et on se touchait. on se regardait, on se... Voilà. Il était très mignon. Il était très jeune. Et au fond, nous étions un couple. Enfin, je pense, on aurait pu faire un couple, mais finalement, ce que j'oublie, c'est que les couples, ça vieillit. Mais c'est pour ça que je suis heureux le jour où je n'ai plus eu les moyens de faire un couple avec quiconque.
Être délivré du désir rendrait-il plus heureux que d'approcher de la vérité ? Si on n'oublie pas, répète maintenant Daniel Cordier, on est malheureux. Néanmoins, il reste le souvenir des nourritures terrestres. Chez lui, Daniel Cordier garde à proximité de son fauteuil préféré une pile de pléiades de gide, annotées, commentées. Tout à l'heure, Emmanuel Macron à l'Élysée ne lui a parlé que de Stendhal. Il serait à la fois Fabien et Julien Sorel, à la fois Fabrice et Julien Sorel, à la fois. Et à ce moment précis de ce discours, le téléphone de Daniel Cordier a sonné, mais vraiment avec insistance, comme si c'était Gide qui appelait. Gide qui avait fabriqué un canular. Il avait fait envoyer après sa mort un télégramme à Claudel. « L'enfer n'existe pas, fais ce que tu veux. » Oui, tout de même, il y a le Nathanaël des nourritures qu'on évoquait ensemble il y a 15 jours. Sur la photo officielle du président de la République, il y a sur le bureau les nourritures terrestres d'André Gide.
Oh là 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 là, quand le... Comment s'appelle-t-il le président précédent ?
Celui qui n'avait pas l'air d'un président, disiez-vous.
Alors, ça, j'étais prêt à tout, sauf à voter pour lui. Et alors, j'avais vu cet homme à la télévision. Je trouvais qu'il avait beaucoup de charme, beaucoup de... Il avait du charme. Il n'était que le charme. C'est drôle. Et alors, c'est moi qui le reçois
au Mont-Valérien.
Au Mont-Valérien. Et on va tous les deux entrer derrière le Mont-Valérien, dans l'endroit qu'est la montagne. On a enterré tous les gens qui ont été fusillés par les Allemands. Et où il y a un trou ouvert, je dois vous dire quelque chose que je ne vous dirai pas. Si j'étais seul, je serais dehors, avec ma mère et... Voilà. Mais enfin, il faut le faire puisque j'y crois.
Vous seriez mieux avec une tombe à l'anglaise et du gazon.
Oui, mais ça... Là, j'ai pas le choix.
Bah oui, une tombe anglaise, ça aurait plus de charme. C'est drôle, tout à l'heure, Emmanuel Macron a présenté Daniel Cordier comme le charme intact, inaltérable, et Daniel Cordier présente Emmanuel Macron comme le charme incarné. Mais revenons au Mont-Valérien, où ils étaient ensemble ce matin. Le sort décidera qui des 5 derniers compagnons encore en vie sera dans le caveau numéro 9 dans la crypte. Après s'être plaint à l'avance du froid, de la grisaille qui y règne, Cordier, qui aime au contraire la chaleur, qui est habillé de toutes les couleurs généralement, se résignera donc s'il le faut. Enfin, s'il y a le devoir, s'il y a aussi le plaisir.
Et maintenant, je suis très, 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 très heureux. Très heureux. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce que je sais que dans quelques jours, semaines, mois,
années.
J'ose pas dire années. Je n'y serai plus. Et ça sera fini. Et c'est merveilleux. Voilà. Vous êtes là. Vous pouvez pas me dire que je ne suis pas heureux que vous soyez là. Vous savez, je suis à moitié fou, mais je suis heureux, c'est tout. Vous savez, à la fin de sa vie, on a cru beaucoup de choses. Et puis, on peut être malheureux. Ça, c'est affreux. Mais c'est pas du tout mon cas. Tout ce que nous voyons, toutes ces boules, la nuit qui sont lumineuses et tout ça, qui sont en fuite, chacune dans des directions différentes, et qui sont en fuite vers où ? Vers l'infini. C'est très difficile à comprendre ce que c'est l'infini. Enfin, peut-être pas pour vous, mais pour moi.
Emmanuel Macron tout à l'heure disait bien que Daniel Cordier n'avait pas le goût des théories. Il avait le goût inné de la liberté en acte. Accompagné aussi d'un vieux goût de la querelle, voire du coup de poing, de la provocation qu'il distribuait avec allégresse. Et puis tout à l'heure, Régis Debray ajoutait ceci à l'Élysée, c'est un homme qui a tout fait pour ne pas paraître le grand homme qu'il est. Merci à Stéphane Beaufils de m'avoir accompagné à Cannes chez Daniel Cordier. L'émission était préparée par Audrey Ripouille, réalisée par Valérie Estaraï. Avec à la technique, ce jour, Nicolas Cazot. Demain, dans la marche de l'histoire, les années folles de l'ethnologie française, avec le directeur du Musée de l'Homme, André Delpech, et dans la tête au carré, où Daniel Fievet monte la garde. Bonjour.
Bonjour, qu'est-ce qu'il est beau votre générique, Jean Lebrun. On va s'intéresser au poison dans la tête au carré cet après-midi.
À tout à l'heure donc.